Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 88e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu. Comme chaque semaine, je fais ça avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquille, comment ça va?
Écoute, ça va bien, ça va bien. J'ai vu Endgame, je suis content, je peux mourir heureux. Mais on n'en parlera pas, promis, on ne spoilera rien du tout.
Rien du tout, rien que dalle. Parce qu'en plus, moi j'y vais que lundi, donc le week-end qui arrive.
Oh là là, ça va être miné l'internet.
Waouh, le premier qui me fait un truc, mais je le défonce, mais ça, on le retrouvera jamais. Je l'éparpille, le mec, tu vois. Donc, j'ai hâte.
Allez, ça devient un peu une habitude, mais on va ouvrir ce 88e épisode de Torréfaction avec un rant générique. Ouais,
ouais. On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Ah, nous, ce qu'on aime, c'est péter des rotules.
Eh oui. Alors, on va râler un peu sur les gens qui se foutent de notre gueule, quand même, ouvertement, et qui développent des business models où ils se font financer à hauteur de 100 millions. Enfin, on va en parler en détail, mais beaucoup de sous pour finalement piquer le contenu des autres, mon cher Caf.
Oui, ça s'appelle un business model parfait. C'est-à-dire que tu violes des copyrights et tu t'appropries le boulot d'autrui. Tu n'en branles pas une. Et toi, tu mets ça à disposition des autres et tu appelles ça de la valeur ajoutée. Mm-hmm. De quoi on parle? On parle de petits mecs. Alors c'est un truc très à la mode en ce moment, hein, parce que ce ne sont pas les premiers, certainement pas les derniers malheureusement, enfin, sauf si on commence à les empiler dans une arrière-cour, mais a priori on n'a pas le droit de le faire dans les pays civilisés, et franchement ça me désole. Non, on est en train de parler donc là, dans le cas présent, d'une petite boîte qui s'appelle Luminary, donc ça c'est nos copains du moment, mais on en a eu d'autres avant, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc ce sont tous les gens du milieu du podcast, qui sont d'ailleurs pas du milieu du podcast, hein, qui sont plus du milieu de la Startup Nation,
c'est ça.
Du start-upper du cancer, comme j'aime les appeler, qui ont des idées de merde en se disant tiens, et si je faisais de la thune sur le dos des gens, ce qui est quand même un modèle, j'ai envie de dire, mis en avant par la société cet an dernier. Mm-hmm. Et eux, ils ont été assez loin, parce que donc Luminary, c'est une boîte qui se propose de regrouper les podcasts pour vous faciliter la vie, et qui donc en a profité pour aller extorquer 100 millions de dollars. Oui, j'ai bien dit 100 millions de dollars, ce n'est pas une erreur. Pour un truc où donc ils ne font pas de contenu à eux, hein, il faut quand même être très clair, et nous sommes rendus compte, moi et toute la planète, dont des podcasts beaucoup beaucoup plus gros que notre petite Torréfaction et les autres podcasts de Geekzone, que nous étions sur leur catalogue, et que les mecs, en fait, ils font ce qu'on appelle un principe de opt-in, c'est-à-dire que par défaut, ils te mettent le podcast, et si tu veux l'enlever, eh ben il faut aller leur envoyer un mail et limite
te battre en fait littéralement,
hein, voilà, pour voir virer le truc. Et ce qui est génial, parce que par exemple, si vous nous écoutez via Spotify là tout de suite, on ne sait pas pour combien de temps encore, Spotify, on a aussi notre quota de choses à dire à leur sujet,
c'est vrai.
Mais au moins, eux, c'est du opt-out, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait l'effort de nous inscrire pour aller chez eux, en disant, bon, on va essayer de voir si ça marche, est-ce que c'est un intérêt en termes d'auditeurs, est-ce que c'est un intérêt pour nous, est-ce que les stats sont là, etc., etc. Après, il y a plein de problèmes avec Spotify, dont la façon dont ils gèrent justement les stats et les téléchargements, c'est-à-dire que eux vont cacher, vont mettre les choses en cache chez eux.
Ouais, ils hostent en fait les podcasts directement chez eux, ce qui fausse nos stats en fait, et surtout nous rend captifs par rapport aux auditeurs qu'on a sur Spotify.
Et pire, ils les hostent mal, c'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau du téléchargement pour une raison X ou Y, bah vous pouvez vous retrouver avec un podcast tronqué sur Spotify, et ça prend 40 000 ans, voire on n'arrive jamais à le faire corriger le truc, ouais. Tellement c'est géré de travers. Mais là, dans le cas de Luminary, il n'y a pas de problème, les mecs vont directement servir sur le serveur, ils mettent ça chez eux en mode genre non mais nous c'était pour rendre service, donc écoute, nous Luminary va bien te faire mettre, excusez-moi parce que j'ai pas l'intention d'être poli du tout sur cette séquence, et la blague c'est que derrière les gars qui font ce genre de truc en ont profité pour par exemple virer les pubs des podcasts qu'ils avaient récupérés.
Ça m'hallucine aussi, quoi, enfin je veux dire,
c'est alors ça c'est magnifique, mais attendez, c'est pas terminé, c'est que les mecs en plus triple HTML, c'est-à-dire que le petit texte qui va avec le podcast n'est pas complet pour pas donner la source du podcast dans plein de cas. Donc le mec de Mac Stories, qui est un des plus gros podcasts Mac, qui a découvert ça, autant vous dire que le gars, il est encore moins content que moi, puisqu'en plus, lui, ça représente beaucoup plus d'argent. On va se dire que nous, Torréfaction, c'est un plus produit, on est content, c'est pour aussi nos patrons, remercier les gens, motiver les gens, mais ça va avec Geekzone, on va dire. Donc on en parle tellement que dans le podcast que c'est indissociable du produit podcast, entre guillemets, mais eux, à la limite, ils ont des choses qu'ils font avec des gens hors Mac Stories, hors de leur site, et tu peux pas vraiment tracer la source. Enfin, genre, si les mecs parlent pas explicitement de leur truc, et ben, il y a plus de source, il y a plus de link, il y a plus rien dans le HTML qui accompagne le podcast. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Et les mecs derrière sont en mode genre, mais pas du tout, mais pourquoi vous êtes énervés? Mais nous, attendez, vous savez, c'était pour rendre service.
Ça vous fait de l'exposition.
Et donc, le mot magique en ce moment est le mot, franchement, si n'importe quelle putain de start-up, même française, qui me sort ce mot, j'ai envie d'y aller à la petite cuillère pour faire sauter des rotules, c'est la curation. Tu vois, c'est pour vous aider à mettre en avant votre podcast. Mais écoute, on t'a rien demandé déjà, donc s'il te plaît, ne nous aide pas. Et deuxièmement, c'est toi qui as levé des sous et qui est en train de demander de l'argent à des auditeurs pour leur rendre service pour la curation. Et cette thune, on n'en voit pas la couleur, faut quand même qu'on soit très clair avec vous. C'est de la thune qui va directement dans leur poche, il n'y a aucun système de redistribution qui est mis en place derrière par aucune start-up dont on a parlé. Hein, genre, si tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais je crois que pour l'instant, il y a personne hein, qui a...
Il y en a une qui avait promis de le faire. Alors, j'ai pas suivi. On va pas les citer pour pas leur faire de la pub et puis non plus pas pour leur faire du tort si jamais il s'avère qu'ils font ça bien. Mais en gros, ils avaient dit, voilà, on va établir un quota en fonction du nombre d'auditeurs, etc. On refilera une partie du financement du site à ces gens-là. Bon, visiblement, c'est toujours pas en activité, donc c'est pas le cas, mais c'était bien les seuls dans le lot à faire ce genre de truc. Alors, voilà. Je voulais juste apporter une petite nuance par rapport à tout ça, c'est que il y a plein d'apps qui existent aujourd'hui, qui sont des apps comme Pocket Cast ou Podcast Addict, qui ont un catalogue en fait. C'est-à-dire que forcément, tu vas chercher
l'app.
Rien
à voir.
Les mecs font un catalogue dans l'app pour te dire, bah voilà, si tu veux découvrir des podcasts, il y a ceci, il y a cela. J'ai aucun problème avec ça parce que toutes ces apps en fait pointent directement sur notre flux RSS et sur notre MP3 à nous. Donc du coup, ça fausse pas nos stats, ça renvoie bien les gens parce qu'il y a un petit lien qui va bien derrière vers la page du podcast, vers le site producteur, avec toutes les infos qui vont bien. Donc de ce côté-là, moi j'ai aucun souci effectivement avec les apps qui ont leur business model sur l'app en tant que telle et sur la plus-value dans ce cas-là apportée par l'app. Là où j'ai un problème et là où toi t'as un problème aussi, c'est avec cette espèce de mot magique de curation où en gros les mecs font un site WordPress qui doit leur coûter 10 balles, mettent en ligne, vont pomper en fait tout le catalogue iTunes, podcast avec des petits scripts, rapatrient tout ça chez eux, si possible rapatrient aussi les MP3 et puis derrière vont demander de l'argent pour financer leur projet à hauteur de 100 millions de dollars, enfin, on danse sur la tête, quoi. Et pendant ce temps-là, effectivement, les gens qui font le gros du boulot, qui alimentent ces sites en contenu, et qui se cassent un peu le cul à faire des choses propres, enfin, je vous donner un ordre d'idée, un podcast comme Les Démons du Midi, entre l'enregistrement, le montage, la mise en ligne et tout, c'est facilement une journée de boulot. Torréfaction, c'est un petit peu moins parce qu'il y a moins de boulot sur le montage, mais c'est quand même, encore une fois, 2 heures de boulot une fois par semaine.
C'est faussé parce qu'il y a tout le côté curation.
Aussi, voilà, on va chercher les news, exactement.
Que toute la semaine, dès que je vois un truc qui m'intéresse ou dont j'ai envie de parler, je le note, je le mets de côté, etc. Ça se fait pas magiquement.
C'est du travail, quoi. Donc c'est un peu normal que quelque part, on râle quand il y a des gens qui essaient de nous piquer ça et surtout qui se financent finalement sur notre dos. Donc voilà, on est un petit peu énervé.
Et alors attention, parce que ça fout la merde aussi pour une des raisons qui a provoquer tout ça, c'est que les mecs qui font les apps de podcast, genre les vraies, les bonnes, tu vois, qui sont des mecs qui respectent en fait le monde du podcast à mort, eh bien en fait, eux se sont aperçus qu'ils recevaient des mails de gens qui disaient « mais je comprends pas, ça marche pas bien quand j'essaie de me connecter pour récupérer tel ou tel podcast », parce qu'en fait, les gens passent par un lien qui en fait est un lien de ce genre de boîte de merde dont on parlait tout à l'heure, et qui en plus ne fonctionne pas quand tu n'utilises pas le vrai, leur appli à eux finalement.
C'est ça, ouais.
Donc là, on est quand même sur du, écoutez les mecs, on a juste envie de vous exploser la tête. Donc le patron, le développeur d'Overcast, Marco Ament, qui est une sommité dans le monde du dev, hein, c'est un des mecs qui a codé Tumblr, etc. Donc c'est un gars qui a vendu 2-3 boîtes et qui a un peu d'argent, qui va être en première ligne. Et je pense que là, il va y avoir même des procès pour droit d'auteur, en fait, tout bêtement, pour aller leur casser les les pattes parce que c'est juste hallucinant que les mecs se soient dit que c'était un business model viable et que ça allait bien se passer et que tout le monde serait content. Donc voilà. Et si vous avez effectivement des catalogues, il y a un catalogue dans Overcast, vous avez un catalogue dans n'importe quelle app un peu sympa actuellement, ça n'a rien à voir. Encore une fois, il y a un catalogue dans iTunes, ça n'a rien à voir avec ce genre d'application. On vous fera une liste un jour, hein, des gens qu'on peut vraiment pas blairer, mais en gros, c'est pas compliqué. S'il y a pas un lien et si c'est pas directement un MP3 qui vient de chez nous, de notre serveur, c'est que les mecs se sont un peu installés, ont mis les pieds sur la table basse et ils sont venus servir chez nous sans rien demander, sachant qu'on a maintenant, en plus ça nous fait du boulot, puisqu'il faut que nous on envoie des mails à ces tocards pour faire retirer les trucs de leur catalogue.
Ouais.
C'est pas et les
on
seuls,
fait quasiment hein. Toutes les semaines, hein. Enfin, il y a toutes les semaines, il y en a un nouveau qui pop
et attention, il y en a des nouveaux, mais surtout il y en a qui les remettent.
C'est ça.
Parce que les mecs derrière ils font genre ah mais nous on a cru que, alors du coup on avait oublié, alors on les a remis. Donc tu vois, au bout d'un moment je veux bien, mais on va embaucher des gens, je ne veux pas faire de stéréotypes sur les pays d'origine, des gens avec des cagoules et des grosses battes, mais c'est quand même un scandale qu'on en arrive là, et ça me dépasse. Et en plus ce qui me dépasse, c'est qu'effectivement ça fait trois fois qu'on le dit, mais que ces mecs en plus arrivent à lever de l'argent sur des business models pareils, je trouve ça magnifique, et ça prouve que les mecs ont un trop de thunes et deux ne savent vraiment pas du tout de quoi on parle. Bref, ça va, ça fait 10 minutes qu'on est vénère là. Ah, ça va mieux.
Non, mais c'était nécessaire.
Voilà. Mais je sais pas, il va falloir qu'on fasse un petit jingle, tu sais, en début de podcast. Genre, si tu écoutes ce truc sur bidule, 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 t'es un gros con, arrête. Enfin, je veux dire, c'est quand même un scandale. Donc voilà. Mais sinon, ça va, toi? Parce que là, ça va mieux, là. Voilà, ça, ouf, je suis
détendu. Écoute, ça va. Puis du coup, je te propose qu'on passe à la suite du programme avec des choses un petit peu plus réjouissantes, et on va parler gaming avec Katana Zero.
Ah, bah voilà. Lui, j'aimerais bien envoyer Zero dans la tête de ces podcasteurs, de ces voleurs de podcasts. Katana Zero, c'est un truc que j'ai découvert cette semaine. J'étais un peu late to the party. Apparemment, il y a eu des previews, des gens qui suivent depuis très longtemps ce projet. C'est un truc vraiment, c'est un ovni, mais comme je les aime bien, tu vois, sinon on n'en parlerait pas déjà. C'est un petit jeu d'action. J'ai presque envie de dire aventure, parce qu'il y a un vrai scénario qui se déplie, entre guillemets, que tu ne vois pas bien arriver au départ. Tu penses que ça va être un jeu où tu vas tuer plein de gens, et puis voilà, t'auras le mot fin, et puis c'est fini, tu vois, un jeu d'arcade. Ouais. Pas du tout, les gars, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que Katana Zero? C'est un jeu en pixel art, un des plus beaux que j'ai vu ces dernières années, hein, je vais pas tourner autour du pot. C'est ultra chiadé, les personnages, les animations, ça a beau être du pixel art. Même si vous êtes allergique au pixel art, regardez une vidéo vite fait, parce que les animes, tout est vraiment magnifique. On est dans le top 3 de ce qui se fait de mieux dans le genre actuellement sur le marché, qui est évidemment édité par Devolver Digital, qui sont un peu les spécialistes de ce genre de trucs, et qui est fait par ASCIISoft, et plus particulièrement ASCIISoft, c'est quoi? C'est surtout un mec qui s'appelle Justin Stander, qui a bossé sur ce projet depuis 6 ans. 6 ans qu'il est dessus, le mec. Moi, je dis respect. En fait, à la base, c'est un mec qui fait des petits jeux flash, tu vois. Donc, et à la base, la première idée de Katana Zero, c'était un mec assis sur une chaise qui doit se détacher, et tu dois trouver un bon enchaînement pour te défaire de tes agresseurs. Scène que tu retrouveras d'ailleurs à l'intérieur du jeu, mais bien plus tard, et qui, en fait, a complètement explosé et qui n'a plus rien à voir avec le produit final. Et le mec, il s'est dit, bon bah tiens, je vais peut-être essayer de faire ça, et il a juste commencé mollement, j'imagine, mais parce que 6 ans pour dev un jeu qui se finit en 6 heures, et oui, Katana Zero a un problème, c'est qu'il est très court, mais je vais y revenir. C'est assez hallucinant, tu te dis, le mec il est fou quand même. Non, il est juste talentueux, et le projet est sur le produit final, et un truc qui est vraiment super sexy. Alors exactement comment ça se joue, c'est un truc un peu simple, hein. C'est, le principe, c'est pas un truc ultra nouveau. En gros, c'est du die and retry. T'as un tableau, tu dois buter, tu dois arriver à la fin du tableau avec un scrolling. Donc t'as des méchants, c'est un side scrolling. Les mecs ont différents types d'armes, t'as différents types d'ennemis, t'as des lasers à éviter, des canons automatiques, etc. Et en fait, dès que tu meurs, ça fast rewind, ça te remet au début du niveau, en fait. Sachant que tout ça est géré au niveau du scénario, il y a une raison pour laquelle vous êtes capable de faire ça et d'anticiper tous les problèmes que vous pouvez avoir sur le niveau, et les déjouer, arriver à la fin du tableau, et après regarder en fait la vidéo entre guillemets de ce que vous avez réussi à faire. Et ça fonctionne vraiment très bien, dans le sens où quand tu crèves, t'as pas ce côté genre, oh merde, fais chier, je me suis planté, tu vois. Tu peux recommencer tellement vite que c'est pas grave. En revanche, quand t'es plus dans le timing, comme c'est extrêmement précis et que les animations sont très précises, je te confirme que des fois, il est impératif de poser le pad, de respirer, d'aller se chercher un verre d'eau pour s'y remettre tranquillement. Parce que moi, ça m'est arrivé de rater un truc de peu, tu vois, de dire, merde, putain. Et après, tu passes plus le premier mec, en fait.
C'est ça.
T'es là, genre, ok, ok.
Mais c'est quoi, c'est un peu du timing, genre jeu de baston, à la frame près, ce genre de truc-là, ou c'est plus du rhythm game où t'as vraiment une histoire de rythme, en fait, à respecter?
Non, c'est pour, alors moi, j'ai vu cette histoire de rhythm game, non, enfin, il y a un moment où en fait, quand tu as le tempo, comme chaque ennemi va être à la même place au début, tu peux aller de plus en plus vite, et à mon avis, ça va être assez rigolo pour les speedrunners, etc. Mais c'est surtout que tout est extrêmement précis, et en fait, tu as plusieurs pouvoirs. Le pouvoir le plus important étant celui de ralentir le temps. Tu as une petite jauge, tu peux pas ralentir le temps tout le temps, évidemment. Ça va durer quelques secondes, mais ça va te permettre de, par exemple, renvoyer les balles à l'envoyeur. Les mecs te tirent dessus, d'accord. Et toi, avec ton katana, tu vas pouvoir taper dans la balle. Mais c'est hyper, enfin voilà, faut pas être un manchot pour pouvoir envoyer la balle et tuer le mec avec sa propre balle, par exemple, et après revenir à la vitesse normale du jeu, etc. Tu peux faire des roulades qui sont en fait des limites, des petits time jumps qui te permettent de passer à travers les lasers, etc. Tu vois, ralentir le temps pour passer à travers un ventilo géant, enfin tu vois, genre de conneries pour passer entre les pales. Y a plein de choses. Alors je veux pas spoiler le jeu, mais il y a énormément, enfin il y a plus de phases de jeu que ce que vous pensez que vous êtes. Au début du jeu, tu te dis bon bah ça va toujours être comme ça. Oui, mais non, il y aura des trucs rigolos. Il y a une phase de jeu qui est un peu nulle. Il y a un truc qui est un petit peu raté, mais qui dure pas 1000 ans, donc c'est pas très très grave. Et ce qui est surtout passionnant, c'est que le scénar, en fait, au début, t'es là dans une ambiance synthwave, néon, tu vois, un petit côté, le mec est fan de Drive, ce genre de truc, donc ça se voit tout de suite. Hein. Mais tu vois, tout le monde dit, oh là là, on dirait du Hotline Miami, mais pas avec la même vue. En fait, pas du tout. Le gars, c'est pas du tout inspiré de ça. Mais effectivement, c'est assez proche. La bande-son est absolument folle, mais le scénar, je vous préviens tout de suite, il est pas rigolo. Hein. Ah. On n'est pas dans le. C'est très violent, donc ne mettez pas votre petit gars, neveu de 8 ans dessus en lui disant regarde, c'est tout mignon, on dirait comme les jeux rétro. Non, c'est pas Mario, les mecs. Hein. va y avoir du crâne explosé, va y avoir des séquences super cheloues. Il y a une réflexion sur. Je peux même pas vous le dire, j'ai pas envie de vous le dire, alors, parce qu'en fait, il y a un thème global autour du jeu, mais ouais, c'est.
Spoil pas.
Je peux pas vous le balancer parce que sinon, c'est le jeu est vraiment construit pour dévoiler le truc de. Voilà, petit à petit, on est quand même sur un tueur à gages qui va voir son psy toutes les semaines. Voire non, pas toutes les semaines, d'ailleurs tous les jours. Après chaque mission, donc ton commanditaire, c'est ton psy, donc ça vous donne une envie, peu l'ambiance du truc, quoi. Donc voilà, allez-y, ça coûte 14 balles. Ce que je voulais préciser au début, c'est que très clairement, c'est précisé absolument nulle part. Et vu que le mec a mis 6 ans pour faire cette version-là, je ne sais pas comment ça va se dérouler après. Mais en gros, c'est l'acte 1, en fait. De ce qui peut être un jeu avec des DLC, etc. Mais c'est précisé nulle part. Moi, je l'ai acheté chez GOG, chez GOG, et vous verrez dans les commentaires, il y a un des commentaires qui est le mec a mis 5 étoiles et a remonté le truc. Et voilà, et ce qu'il dit, c'est vrai, c'est qu'effectivement, c'est marqué nulle part que ça se finit assez vite et que ça peut être considéré comme le premier volet d'une aventure épique. Alors après, vu la gueule du scénar, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça coûte 14 euros. Faites-vous plaisir, c'est un trip, au moins c'est un jeu qui va pas vous engloutir 100 000 heures, ouais. et c'est vraiment ultra cool. Alors ça peut se trouver sur à peu près toutes les bonnes boulangeries digitales de nos PC et sur Switch, si je ne dis pas de bêtises, et pour l'instant c'est tout, mais j'imagine que ça sera dispo un peu partout parce que techniquement je ne vois pas ce qui les en empêcherait. Après, je sais pas s'il y a des portages de prévu, mais en tout cas le ça ne passait pas à côté, c'est vraiment un bon trip, en tout cas si vous n'êtes pas allergique au pixel art évidemment, mais c'est un très bon trip, c'est une très bonne surprise. Moi je l'ai fini hier soir et franchement je me suis régalé.
Katana Zero donc, et on va changer radicalement de registre avec Promode 2.40. Pourquoi je vous parle de ce add-on? Parce que je sais qu'on a des fans sur Geekzone, des fans de Euro Truck Simulator 2.
Il en faut pour tous les goûts les amis.
Moi c'est mon truc zen, en fait. C'est comme je disais dans la news que j'ai écrite sur Geekzone,
c'est ton Lexomil.
Voilà, je me mets ça avec un peu de musique et puis je transporte mes cargaisons peinards. Promode, c'est quoi? C'est un DLC non officiel, donc, qui existe depuis 6 ans, donc presque autant que le jeu, et qui est régulièrement mis à jour, et qui rajoute rajoute un paquet de choses, dont une centaine de villes supplémentaires, forcément des centaines de kilomètres de route en plus, ainsi que des améliorations visuelles. Le gros avantage, c'est que le mode est gratuit. Alors, je mets gratuit avec les R guillemets, parce que les développeurs facturent quand même la bande passante à hauteur de 1 euro, donc c'est vraiment pas grand chose. En gros, le patch fait quand même, enfin, le mode fait quand même près de 2 gigas. Donc, j'imagine que les mecs veulent pas non plus se ruiner côté serveur, donc ils demandent une petite participation d'un euro si tu décides de télécharger chaque version du pack. Et voilà, c'est un add-on qui s'installe assez simplement dans Eurotruck, qui rajoute plein de trucs. Franchement, si vous êtes un fan du jeu, c'est un indispensable, d'autant plus que bah voilà, la version 2.40 vient de sortir cette semaine avec de nouveau plein de nouveautés. Et le seul prérequis important à savoir, c'est qu'il est nécessaire d'avoir tous les DLC du jeu. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc voilà, il faut déjà être un gros fan du titre. Mais voilà, je me disais que pour les gens qui aiment bien ETS 2, c'est un complément vraiment indispensable et pas cher. Et puis sachez qu'il existe aussi un deuxième DLC, toujours non officiel, qui lui remplace tout ce qui est logo, remorque, etc. avec des marques officielles. C'est ce qu'ils appellent le Trailer and Company Pack, et qui lui vous sera facturé 50 cents, je crois. Je vous linkerai le papier Geekzone où je vous explique tout ça avec des zoolies screenshots. Mais donc voilà, Promode 2.40 est sorti cette semaine pour les fans de gros camions, et on va passer aux apps avec une app qui s'appelle Manga Plus, et je me demande bien ce qu'elle fait.
Bon, alors c'est un truc pour couper les carottes.
C'est ça.
Alors Manga, le vrai nom, en plus c'est chiant, mais c'est le vrai nom, c'est Manga Plus, ben Shueisha, je ne sais plus.
Shueisha.
Il y a Greg qui va apparaître dans mon bureau et m'éclater la tête parce que ma prononciation du japonais est catastrophique, je suis désolé. Donc c'est un des plus gros, voire le plus gros éditeur de manga de la planète, et donc du Japon évidemment, qui fait des petits trucs genre pas connus du tout, genre One Piece, genre Dragon Ball, genre Capitaine Tsubasa alias Olivier Tom chez nous, Naruto, tout ça, ça vient de chez eux, donc tu vois, Death Note, des petits je te dis. Et ces gens en fait ont une application avec abonnement dans plein de pays, mais comme les droits, c'est un bordel sans nom, surtout chez nous, qui oui, ça a été signé, vendu à plein de boîtes différentes. Mais tu sens que les mecs sont en train de reprendre le contrôle, et ça c'est pas plus mal. Du coup, ils sont en train de mettre en place une application où dans certains pays, tu peux t'abonner et tu as la lecture directe de tout le catalogue. Tu vois, un peu comme Marvel Unlimited côté comics. Et bah là, ils essayent de combattre tout ce paysage de la traduction fait par des amateurs en plus, donc avec une qualité toute relative, avec des applications qui te permettent de récupérer plein de trucs. Il y en a plein sur d'ailleurs, il y en a plein qui sont des grosses arnaques, hein, que ça soit sur iOS ou Android, mais qui te permettent de lire ça tranquillou avec un iPad, ou là franchement un iPad et genre d'application où vous êtes juste au top, et vous avez accès à un milliard de choses, sauf que là bah vous avez des vraies traductions, vous êtes pas en train de voler les auteurs, et bah c'est gratuit parce que pour l'instant ils ont pas mis en place leur système d'abonnement. Alors tu peux accéder du coup à plein de BD gratuites directement avec ton téléphone ou ta tablette, et là ou même ton navigateur, puisqu'il y a un site web qui va avec. Je vais vous linker tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast, sauf si vous les écoutez chez les autres escrocs dont on parlait tout à l'heure. Et du coup tu te dis, mais elle est où l'arnaque? Alors en fait, il n'y en a pas pour l'instant. C'est-à-dire que les mecs sont clairement en train de préparer le terrain pour un jour pouvoir te balancer un abonnement. Ouais. L'arnaque, entre guillemets, ça n'est pas vraiment une, c'est que tu n'as pas la possibilité de lire l'intégralité du catalogue. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et par exemple, une vieille série comme Naruto est notée comme étant en réédition. Donc en fait, on va te mettre les premiers volumes en accès, et ensuite on va te mettre les volumes, les derniers volumes parus. Mais chaque volume, en fait, va disparaître au bout d'un moment. On va dire que si tu as un manga qui est disponible, dont les derniers numéros vont du 95 au 100, par exemple, tu vas avoir une petite horloge à côté de chacun avec une date, et cette date, en fait, ça te dit à quelle date ça va disparaître.
D'accord.
Et du coup, bah, si tu pars en vacances 6 mois sans internet, oui, tu vas rater plein de trucs. Maintenant, si tu te prends de passion pour une série, et bah, le but du jeu, c'est de la lire, en fait. Et ils veulent créer aussi une habitude. Au bout d'un moment, j'imagine qu'ils vont arriver en disant, voilà, si tu payes tant, tu as accès à tout le catalogue, y compris les trucs que tu as ratés. Et c'est actuellement dispo dans plusieurs pays. C'est dispo en traduction anglaise et espagnole. Donc vous noterez qu'il manque le français dans l'histoire, mais l'appli est enfin disponible en France. Et pourquoi il manque le français? Parce que comme je vous le disais, le manga en France, bah, c'est un énorme carton, et il y a plein de choses qui ont été vendues en fait en adaptation à différents éditeurs.
Éternel problème de la distribution en fait.
Exactement.
Qui appartient pas aux mêmes gens.
Voilà, et on a le problème avec des trucs Netflix qui sont pas dispo chez nous. Ouais. Bon bah là c'est la même chose. Hein. Et du coup en France, donc la traduction française, c'est la plus touchy, et évidemment c'est celle qui n'est pas dispo. Donc si vous lisez un minimum dans anglais, bah là vous vous retrouvez avec des trucs sous vraiment disponibles hyper facilement et légalement, ce qui fait quand même plaisir, et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens, y compris en français. Si vous cherchez des trucs nouveaux et bien débiles à lire, je vous conseille l'excellent et très débile Chainsaw Man, oui, l'homme tronçonneuse. je n'invente rien,
le Japon.
Le Japon, ça vient du Le Japon et tu peux pas lutter. et ils ont tout plein de nouvelles séries comme ça qui démarrent, et donc vous n'avez rien raté puisque ce sont les premiers exemplaires dispo. Donc par exemple, il y a un truc qui s'appelle Spy and Family, je crois, un truc comme ça, qui est dispal, ouais, c'est Spy X Family, par Tatsuya Endo. Bon, bah, par exemple, il y a que 3 volumes de dispo. C'est une nouvelle série. Donc, bah, voilà, là, vous la prenez maintenant. Bah, vous allez rien rater si vous la lisez au fur et à mesure. Donc, évidemment, ça ne sera pas en français, mais en anglais et, ou en espagnol. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ils m'ont viré. Ils m'ont dit d'arrêter l'espagnol. Hein, donc, c'était il y a très longtemps déjà. Donc, je vous confirme que je peux rien en faire de cette version. Mais voilà, si vous voulez convaincre vos gamins de se mettre à l'anglais, c'est un bon moyen. Ils ont accès au dernier truc de Boruto. Donc, en fait, faut bien comprendre que la dispo de ces trucs-là est la même qu'au Japon. C'est-à-dire que tu attends pas 6 mois pour avoir la trad. Mmh. C'est vraiment, t'es dans la même semaine, les mecs ont leur armée de traducteurs qui se mettent au boulot et qui te préparent les pages dans cette version-là. Donc voilà, je voulais en parler pour vous dire que c'était de la baballe. Parce que j'avais râlé sur Twitter à l'époque où ça avait été annoncé, parce que c'était même pas dispo au téléchargement en France. Donc tu pouvais même pas récupérer l'application, parce que dans les autres pays, évidemment, tu as la version avec abonnement ou tu as l'ensemble du catalogue, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais ils ont trouvé une petite ruse pour commencer à s'installer, et j'en suis très content.
Manga Plus by Shueisha, donc.
Merci, monsieur, tu le dis mieux que moi.
Je suis pas sûr. petite mise à jour concernant nos amis de Dropbox, vous en avez parlé dans l'épisode 82 de Torréfaction. Dropbox a décidé de limiter l'usage de sa version gratuite à 3 devices, ce qui déjà était pas top. Mais à l'époque, ils avaient annoncé en mars dernier donc que normalement, ça ne concernait pas les gens qui avaient déjà plus de 3 devices enregistrés à partir du moment où tu changeais rien à ta config. Pas de problème, ça allait rester comme ça. Sauf que là, a priori, ils ont changé d'avis, ils ont envoyé un mail cette semaine à tous les utilisateurs.
Sauf moi.
Ouais, bah moi je l'ai reçu, donc voilà, t'as de la chance. En disant que bah finalement, si t'avais plus de 3 devices, il était temps de faire le tri et de virer les devices supplémentaires. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que ça a un petit peu changé. Donc si vous comptiez sur le fait d'avoir déjà enregistré vos devices sur votre version free de Dropbox, eh bien c'est mort. Il va falloir passer à la version premium. Ils précisent pas dans le mail à partir de quand ils vont vraiment mettre en place cette limitation, mais a priori c'est immédiat, donc ça veut dire que c'est déjà le cas. Donc voilà, si vous aviez plus de 3 devices sur votre Dropbox, c'est le moment de changer et éventuellement de passer à la concurrence.
C'est la carotte. Alors en plus, la concurrence est chiant parce qu'il n'y a pas énormément de monde des produits équivalents. Mais je rappelle qu'actuellement, le truc le plus intéressant, bah, ça reste chez nos amis de Microsoft avec OneDrive, dont le client évolue pas trop mal. Après, ils sont pas encore au niveau de Dropbox, mais ça commence à devenir pas mal, y compris sur Mac. Et surtout, quand vous êtes abonné à Office 365, je vous rappelle que vous avez 1 teraoctet par personne. Si vous avez l'offre famille, par exemple, ça fait quand même 1 tera x 5. Autant vous dire que pour avoir la même chose chez Dropbox, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Et c'est ce que reprochent d'ailleurs pas mal de gens, c'est que ce push de Dropbox pour gagner de l'argent, bah, on les comprend, hein, parce qu'après, ce qu'on avait dit, je sais plus, moins de 3% des utilisateurs
à peu près, ouais.
Voilà, sont des gens qui payent. Donc on les comprend, mais ça s'accompagne pas, par exemple, d'un tiers moins important, mais moins cher. Donc c'est directement 10$ par mois. Et bah, je suis désolé les mecs, mais vous me rendez très service, mais c'est non quand même, donc voilà. Heureusement, il y a des petites alternatives à des prix un peu intéressants.
Allez, on passe du côté de la culture, et vu que je parlais jamais de musique, eh bien j'ai décidé de ne parler que de musique cette semaine. On va commencer avec un monsieur qu'on aime bien, toi et moi. On s'est jamais vraiment remis de la mort de notre ami Prince, qui nous a quittés en avril 2016, et contrairement à certains autres artistes que je nommerai pas, mais que je qualifierais juste de bad, lui ne s'est pas révélé être un monstre depuis. Du coup, on est toujours content quand il y a du nouveau biscuit qui apparaît 3 ans après sa disparition. Tu le sais sans doute, mais peut-être que les gens qui connaissent un peu moins Prince ne sont pas au courant. Prince, outre toute sa carrière personnelle, a produit un bon nombre de tubes pour d'autres artistes, et parfois des artistes pour lesquels on n'était pas au courant. la plupart ayant fait un gros carton, je pense notamment à Manic Monday des Bangles, Jungle Love de The Time, ou encore l'inénarrable Sex Shooter d'Apollonia 6. C'était lui à chaque fois. Et du coup, bonne nouvelle, il y a une compilation qui va sortir, qui s'appelle Originals, et qui va rassembler ses compositions pour d'autres artistes, en tout cas 15 d'entre elles dans leur version démo, c'est-à-dire interprétée par Prince.
Ah, ça c'est fort.
Voilà, et pas dans la version qui a été finalement commercialisée. C'est une sélection qui a été réalisée par un monsieur de la Prince Estate qui s'appelle Troy Carter et Jay-Z. Pourquoi Jay-Z? Je ne sais pas, sans doute qu'il était un gros fan de Prince, et qui sortira donc en avril 2016. Ça couvrira pour le coup la période des années 80 au début des années 90, ce qui me laisse penser qu'il n'est pas impossible que ce soit le premier volet d'une série et qu'on ait d'autres démos qui nous arrivent par la suite. Donc voilà, Prince Originals, on vous linkera un papier qui résume tout ça.
Et je voulais préciser un truc pour ceux qui ne connaissent pas Prince, c'est qu'en plus, je crois que les mecs sont toujours en train de trier son coffre-fort des choses enregistrées mais jamais diffusées.
C'est ça.
le Vault magique, où le mec a quand même des films et des compos et des clips jamais, enfin tout est tourné, finalisé, mais
c'est
n'ont
ça.
Jamais été diffusés, c'est n'importe quoi.
Ouais, je pense qu'on en a encore pour un moment avec des albums inédits de Prince, et pour le coup de qualité, parce qu'il avait tendance à être perfectionniste et vraiment finaliser ses morceaux, et puis décider de ne pas les sortir parce que finalement il le sentait pas, donc je pense qu'il y a encore du matos. On continue dans la musique avec une news concernant un groupe que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Lamb, qui est un duo composé de Louise Rhodes et Andy Barlow. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient plus rien sorti. Leur dernier album, c'était Backspace Unwind. Le nouvel album sort aujourd'hui. Comme quoi, le timing est bon pour une fois du côté de
Quel talent. On dirait que tu fais exprès.
Je fais exprès. Nouvel album donc, qui s'intitule The Secret of Letting Go. Donc voilà, c'est un album que j'ai eu l'occasion d'écouter très très vite aujourd'hui, donc j'ai pas encore un avis définitif, mais qui est tout à fait dans la veine de ce qu'on est en droit d'attendre de Lamb, avec une production peut-être un petit peu plus dépouillée que d'ordinaire, un peu plus clean, mais toujours avec la voix de Lou Rhodes qui est moi je trouve fantastique, et puis mélodiquement ça fait toujours autant mouche. Plutôt qu'un long discours, je vous propose qu'on écoute un extrait, ça sera peut-être plus facile pour vous faire passer la vibe Lamb. Écoutez un extrait de Moonshine, donc tiré de l'album The Secret of Letting Go qui sort aujourd'hui. Lamb tiré de l'album The Secret of Letting Go qui sort aujourd'hui en vinyle, en CD, en démat, et on vous filera un lien vers le site officiel pour aller récupérer tout ça. Et on va passer du côté de la tech avec des nouveaux portables du côté de nos amis de Razer.
Ouais, alors d'habitude on parle pas du tout de ce genre de truc, et c'est vrai que s'il y avait des portables que je voulais vraiment vous vendre, je parlerais plutôt des derniers 13 pouces Dell ou ce genre de choses. Mais là, comme on dit souvent que les produits Apple sont vraiment trop chers, etc., et c'est vrai, mais là il y a Razer qui a décidé qu'ils en avaient rien à foutre et que c'était les rois du pétrole et qu'ils allaient sortir des portables plus chers que tout le monde.
C'est ça.
Et du coup, moi, je suis hyper impressionné. Alors après, ils ont mis du matos dedans, mais donc c'est la nouvelle gamme Blade 15 qui vient de sortir, qui vient d'être annoncée. Je ne sais même pas s'ils sont encore dispo chez nous. Mais les prix américains, donc hors taxe, c'est entre 3000 et 3300 dollars, s'il te plaît. Et donc auquel il faudra rajouter les taxes de l'État des États-Unis où vous achetez la bête. Et pour 3300 dollars, vous avez quand même une bécane avec du 4K OLED pour l'écran. Alors forcément, bah oui, ça coûte un peu d'argent le OLED, hein, je voulais vous dire. Et j'étais étonné parce que finalement, 3000 dollars pour la version entre guillemets normale, je me suis dit, mais ça fait pas une grosse différence pour le prix de l'écran. Et en fait, non, c'est parce qu'ils ont collé un écran gamer sur l'autre. Donc le 4K OLED, forcément, il est pas méga rapide. Mais l'autre, en fait, c'est un écran à 240 Hz qui est juste en 1080p. Mais si vous voulez jouer avec un truc qui va super vite, eh bien, il faut effectivement avoir ce genre de techno. Bon, 240 40 Hz, tu te dis bon bah là il faut une carte graphique qui puisse tenir le truc, et c'est portable, ils vont pas y arriver. Non mais si, parce qu'ils ont mis une RTX 2080 dans le truc en fait. Donc ils ont tout mis dedans, le truc est même pas moche, il est plutôt joli. Après c'est attention, hein, c'est pas d'ultra portable non plus, mais on n'est pas en train de parler des grosses baleines de chez MSI non plus, hein. C'est du portable très haut de gamme, donc c'est quand même très bien intégré. Mais je voulais vous en parler parce que ça m'a fait marrer de voir autant de tech dans un portable PC pour le coup. Les processeurs, évidemment, à ce prix-là, vous imaginez bien qu'ils vous ont pas mis du Core i3, hein. C'est donc les derniers Intel Core i7 avec des versions portables, histoire de pas transformer votre portable tout neuf en machine à raclette. ça serait dommage. C'est des modèles qui vont de 2,6 GHz quand ils sont en train de se tourner les pouces jusqu'à 4,5 GHz. Alors après, combien de temps ils restent à 4,5 GHz? Je ne sais pas, parce que au bout d'un moment, ça fond. On s'est aperçu, par exemple, que sur les derniers Mac Mini ou si sur les dernières machines hyper haut de gamme comme ça, même chez Apple, tu as un thermal, ce qu'on appelle le thermal throttling en anglais. Donc tu as, au bout d'un moment, le processeur il fait genre j'ai chaud, je vais me calmer, on va descendre un petit peu quand même, mais on va pas te le dire parce que, tu vois, histoire de pas faire fondre la machine. Là je sais pas du tout comment c'est géré, mais bon, c'est des bécanes musclées. Évidemment, en standard c'est 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Voilà, donc si vous avez beaucoup trop d'argent et que vous voulez pas jouer sur un vrai desktop avec des vrais beaux écrans sur vos bureaux, vous pouvez tenter ce truc là ça m'a fait marrer. Et là pour le coup, bon, on s'aperçoit que quand on met un petit peu de matos, tout de suite les prix explosent, même dans le monde Windows. C'est la même chose, hein, si vous regardez les portables carbone du côté de chez Lenovo, ce genre de choses, il y a des très bonnes machines, mais elles sont rarement à 800 balles, et c'est normal.
Et c'est la fin de ce 88e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end, CAF.
Ouais, bon week-end, sauf les mecs qui volent les podcasts. J'espère qu'ils vont avoir un week-end de merde et que lundi, ils auront des gens qui, avec des petits trucs genre season disease, tu vois, avocats devant leur porte. Ça me ferait tellement plaisir. Tiens, je vais penser à ça ce week-end, ça va mettre de bonne humeur.
Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.